juste après le journal. Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour. Une nouvelle frappe israélienne au cœur de Beyrouth. La nuit dernière, elle visait un centre de secouristes du Hezbollah. Le mouvement chiite, toujours sous pression dans son fief, la banlieue sud de la capitale libanaise. Reportage dans un petit instant. À suivre aussi dans ce journal, l'ouragan Helene, thème de campagne aux États-Unis. Le président Biden et sa vice-présidente Kamala Harris se sont rendus sur place dans les zones sinistrées. Et puis des tête-à-tête entre le président Macron et ses homologues du Tchad et du Bénin dès aujourd'hui, rencontre bilatérale en marge du sommet de la francophonie à partir de demain. Des immeubles ont tremblé la nuit dernière, donc en plein centre de Beyrouth, au Liban. Une frappe de précision, selon Israël, qui visait un centre de secours du Hezbollah. Le dernier bilan est de 7 morts. De nouveaux raids également dans le sud de la capitale libanaise. Les frappes sont quasi quotidiennes, là, dans ce secteur. C'est un fief du mouvement chiite. Alors, difficile à ce stade d'établir un bilan des victimes de ces derniers jours. Des victimes considérées comme des martyrs par la communauté chiite. Reportage de nos envoyés spéciaux, Abla Jounaïdi, Jadel Khoury.
Jardin des deux martyrs dans la banlieue sud de Beyrouth. Prières et lamentations accompagnent un corps inerte vers sa dernière demeure. Un linceul jaune l'entoure, les couleurs du Hezbollah. Rana est venu enterrer son neveu. Son visage apparaît sur une photo en tenue militaire. Mais il est mort, dit-elle, dans les dernières frappes qui ont endeuillé la banlieue sud.
La résistance, c'est l'honneur de toute la nation. Celui qui l'abandonne est indigne et n'est pas patriote. Nous avons grandi avec la résistance. De père en fils, ce pays se sacrifie. Ce sable, il est rouge du sang de nos martyrs. Nous n'abandonnerons pas notre pays. Même si tous les membres de ma famille, tous nos enfants devaient mourir, nous continuerons le sacrifice.
Les portraits des chefs du Hezbollah assassinés ornent le bâtiment. Le mouvement, même privé de ses leaders, est prêt à affronter une invasion terrestre israélienne, veut croire Hussein, venu se recueillir sur une tombe.
Il n'y a pas de place pour la faiblesse dans notre communauté. La bannière du Hezbollah flottera toujours. Notre communauté a donné ses chefs pour la cause. Bien sûr que nous sommes prêts à nous sacrifier. Notre sang n'est pas plus précieux que celui de notre Sayed, mort au cœur de la banlieue sous les frappes. Notre sang n'est rien à côté de ce grand sacrifice.
Ne pleurez pas le martyr, lance un homme à la foule. À ton service, Nasrallah, lui répond l'assemblée, montrant sa détermination plutôt que ses larmes. Abla Jounaïdi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Parallèlement, dans le sud du Liban, Israël, l'armée israélienne annonce la mort de 15 combattants du Hezbollah. L'armée qui affirme aussi avoir tué le chef du gouvernement du Hamas à Gaza annonce donc il y a quelques minutes, on y reviendra. De son côté, l'Iran, parrain du Hezbollah, a rouvert son espace aérien, fermé pendant plus de 24 heures, en prévision d'éventuelles représailles à ses tirs de missiles contre Israël mardi soir. Les États-Unis appellent Israël à une riposte proportionnée face à son ennemi juré. Joe Biden s'est dit opposé à l'option de frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes. Cette guerre sur plusieurs fronts et ses conséquences sur l'économie de l'État hébreu. Après l'agence Moody's, l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé à son tour la note de la dette d'Israël. De A+, elle passe à un simple A, Justine Fontaine.
Pour motiver sa décision d'abaisser d'un cran la note du pays, Standard & Poor's évoque la guerre qui se poursuit à Gaza et l'offensive israélienne au Liban, ainsi que les risques de représailles contre Israël, comme l'attaque aux missiles menée ce mardi soir par l'Iran, soutien du Hezbollah libanais. La guerre sur ces deux fronts pourrait se poursuivre jusqu'en 2025, reconnaît l'agence de notation, qui a revu à la baisse les perspectives de croissance du pays, 0% cette année au lieu d'une croissance légèrement positive, et 2,2% l'an prochain, soit deux fois moins qu'anticipé précédemment par Standard & Poor's. Car avec la guerre qui se prolonge, le tourisme, la construction et l'agriculture, par exemple, continuent de tourner au ralenti, les dépenses militaires salaires augmentent, de quoi creuser le déficit budgétaire du pays. Le gouvernement n'a d'ailleurs toujours pas présenté son projet de budget 2025 à la Knesset. L'agence ne s'attend pas à une reprise économique avant 2026. Cette année, sa concurrente Moody's a pour sa part déjà abaissé deux fois la note d'Israël.
Et selon le gouvernement israélien, les dépenses liées à la guerre ont dépassé les 50 milliards de dollars en moins d'un an. Des renforts militaires envoyés dans les zones sinistrées par l'ouragan Helene aux États-Unis pour les opérations de secours dans plusieurs états de la côte atlantique. Helene a fait 155 morts, bilan encore provisoire. Et alors que Donald Trump a critiqué la gestion de la catastrophe en pleine campagne pour la présidentielle, le président Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont affiché leur soutien sur le terrain. RFI Washington, Guillaume Nodin.
C'est la Géorgie que Kamala Harris a choisie pour sa première visite dans les zones sinistrées. C'est un état clé dans la course à la Maison-Blanche et deux jours plus tôt, Donald Trump s'y est rendu en déclarant que le gouverneur républicain Brian Kemp avait du mal à joindre l'administration. L'intéressé a démenti et Kamala Harris le souligne.
Le président et moi avons fait bien attention depuis le début à ce que les ressources fédérales arrivent sur le terrain au plus vite. Je veux remercier le gouverneur pour sa direction et pour sa coordination étroite avec le gouvernement fédéral et avec notre administration, sachant que nous sommes meilleurs quand nous travaillons ensemble.
Donald Trump a aussi accusé l'administration d'oublier les régions républicaines dans l'aide et ce n'est sans doute pas un hasard si Joe Biden commence par visiter deux États, un de chaque bord.
Je veux remercier le gouverneur républicain de Caroline du Sud et le gouverneur démocrate de Caroline du Nord. Dans des moments comme ça, nous devons mettre la politique de côté, du moins nous devrions. Et c'est ce que nous avons fait ici. Il n'y a pas de démocrate ou de républicain, il y a seulement des Américains. Et notre travail, c'est d'aider autant les gens que nous le pouvons, le plus vite que nous pouvons et le plus complètement que nous pouvons.
Joe Biden sera ce jeudi en Géorgie, mais aussi en Floride, l'état de Donald Trump. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
En Géorgie, mais cette fois pas aux États-Unis. À Tbilissi, la loi qui restreint les droits LGBT+ a été promulguée. C'est le président du Parlement géorgien qui a signé finalement ce texte controversé inspiré de la législation russe. Sachant qu'hier, la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, avait refusé de signer cette loi. Texte sur les valeurs familiales, selon ses promoteurs. Un retour anticipé pour Reed Brody, l'avocat américain et défenseur des droits de l'homme, expulsé du Tchad. Hier, il a atterri ce matin à Paris. Reed Brody, qui avait joué un rôle majeur dans la traque et le procès de l'ancien président tchadien, Hissène Habré. Il devait tenir une conférence à N'Djamena, à l'invitation de l'ambassade des États-Unis, notamment pour parler de son livre. Mais la police est intervenue dans l'amphithéâtre. Reed Brody a donc été conduit à l'aéroport et mis dans un avion direction la France. C'est justement là en France que se trouve en ce moment le président tchadien Mahamat Idriss Déby pour le sommet de la francophonie qui démarre officiellement demain. Au total, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye notamment est annoncé, le Congolais Félix Tshisekedi, le Camerounais Paul Biya ou encore le Rwandais Paul Kagame. L'occasion pour le président français Emmanuel Macron de mener des entretiens bilatéraux, donc notamment avec ses homologues africains, Pierre Fersion.
Mahamat Idriss Déby sera reçu en tête-à-tête ce jeudi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Sa venue peut être vue comme un signe positif par Paris, alors que le président tchadien avait annulé ses deux dernières visites en France en raison de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier pour des soupçons de biens mal acquis. Outre les sujets économiques et régionaux, la question de l'avenir de la base militaire française de N'Djamena devrait être au cœur des discussions entre les deux présidents, Paris ayant prévu de réduire son empreinte militaire sur le continent. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron recevra le Béninois Patrice Talon à dîner, après l'inauguration par les deux hommes de l'exposition « Révolution, art contemporain du Bénin » à la Conciergerie. Le partenariat culturel entre les deux pays sera justement au menu des échanges. Mais le temps fort de ces séquences bilatérales aura lieu à partir de vendredi. Le président français s'entretiendra avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame au sujet de la situation dans l'est de la RDC. Pas de sommet tripartite au programme, mais des entretiens séparés. L'idée étant d'inciter chaque camp à avancer pour permettre une rencontre un jour entre les deux hommes. Objectif à terme, selon l'Élysée, aboutir à un accord au plus vite pour que les combats dans le Nord Kivu prennent fin.
La francophonie qui a aussi son festival musical, ça se passe en ce moment à la Gaîté Lyrique à Paris. Sur le thème, je suis sûre que ça va vous plaire, Caroline Paré, refaire le monde. Tout
Pourquoi
de suite,
pas.
Priorité santé.
Merci Charlotte Hydrac.